se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive vos champs participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Carrefour.
Quand vous me dites
« Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip large Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC. Jusqu'à 8h.
Bref, ça faisait déjà quelques mois qu'il me fallait une vraie armoire. J'en ai acheté une. J'ai essayé de fixer la planche B à la planche D avec la vis B5, mais ça marchait pas. Je me suis rendu compte que j'avais confondu la planche B avec la planche H, qui est pareil mais avec deux autres trous sur le côté. Je me suis senti triste, j'ai crié.
Votre maison.
Sur la notice, ils indiquaient qu'il fallait être deux pour monter ce meuble. Je me suis dit que je me débrouillerais tout seul. L'étape 7 a été difficile. Mon coloc m'a pas aidé. Il était occupé.
Ouais, mais demande. Demande pas.
François Sorel.
Christian Pessé.
Ah, le coloc qui mange des chips pendant qu'on monte le meuble. C'est pas
ça paraît
sympa.
Du vécu, là. Hein.
J'ai l'impression. Et oui, on va parler maintenant des meubles en kit. Et en introduction, j'aimerais quand même saluer le message de Gaëtan sur Direct Studio, qui nous dit « En ce qui concerne les meubles en kit, ma femme lit le plan et moi, je le monte. Et surtout moi, je ne la contredis pas. » Voilà.
Je pense que c'est sage.
C'est ça la paix des ménages.
C'est ça si la paix des ménages.
Alors, alors vous avez des questions justement sur les meubles en kit. Comment ça s'est passé, votre dernière expérience de meubles en kit? N'hésitez pas à nous le dire. Le 3216, l'appli RMC Direct Studio. Et si vous nous joignez par Direct Studio, n'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone. On vous rappelle dans la foulée.
Voilà, oui, en ce moment, il est encore possible de se faire livrer des meubles en kit. Tout le monde ne le fait pas, enfin, toutes les entreprises. Mais c'est un bon moment pour aménager son intérieur d'une façon générale, puisque évidemment, on a du temps. On a du temps et on s'aperçoit, tiens, ça me manque d'une étagère, tiens, mon dressing, je pourrais peut-être m'en occuper. Et après, il faut monter tout cela. Alors, c'est vrai que ce qu'on a entendu tout de suite, c'est du vécu pour beaucoup d'entre vous, et peut-être même ce matin. Et donc, j'ai décidé de faire appel à un spécialiste de la question. Nous avons avec nous, qui nous attend, Frédéric Pressac. Frédéric Pressac, qui est responsable de la plateforme montagedemeubles.fr.
Au moins, donc, au le moins, site internet.
C'est clair. Bonjour Frédéric Pressac.
Oui, bonjour Christian. Bonjour.
Alors vous êtes un spécialiste du montage. Alors on va un petit peu là à vous faire de la concurrence, mais c'est très sympa de répondre puisque votre boulot c'est de les monter, mais nous on va inciter les particuliers à les monter. Donc c'est généreux de votre part. On vous en remercie.
Quel est l'objectif de votre site, Frédéric?
Alors nous, en fait, on est une plateforme consacrée uniquement au montage de meubles.
Oui.
Et on ne fait que ça, que du montage de meubles.
Ça veut dire que vous avez des équipes qui viennent chez nous monter les meubles.
Voilà, équipe rarement, c'est souvent une seule personne. Je vais bien la question souvent, est-ce qu'on a besoin d'être un ou deux pour monter un meuble? Mais ça, on verra après. Mais nous, c'est que des professionnels et ils viennent donc monter les meubles et uniquement monter les meubles. On ne fait rien d'autre.
D'accord. Et en ce moment, dans la période de confinement, vous avez tout de même donc des monteurs qui viennent à domicile.
Voilà. Alors, moins actuellement, parce que
on peut l'imaginer.
La période fait un peu flipper, mais non, j'en ai quelques-uns qui tournent et moi-même, je tourne.
D'accord.
Je suis obligé d'aller sur là, un exemple, juste après l'appel, je pars sur un montage professionnel. D'accord. Pour monter toute la journée.
Oui, parce que vous montez aussi beaucoup d'équipements pour les pros. Je pense qu'ils, notamment, par exemple, déménagent un vendredi et le lundi, il faut que ça soit monté, c'est ça?
Voilà, complètement. Ou même des centaines de bureaux à la Défense ou des armoires, ouais. Des rollers, il y a de tout, quoi.
Donc,
on fait que ça.
Donc, on peut aller sur votre site et vous solliciter pour cette prestation. Alors moi, voilà. je vais vous poser un certain nombre de questions parce que elles sont nombreuses. Hein, il y aurait de quoi faire 2 heures sur le sujet. Est-ce que la problématique, c'est pas d'abord de bien concevoir son projet, de prendre correctement les mesures avant de se retrouver avec un meuble dont on n'a pas forcément bien apprécié sur catalogue le volume. Est-ce que c'est pas déjà la première des choses?
Ah, c'est super fréquent. Ce que vous dites là, c'est super fréquent. Celui qui a rêvé du gros meuble et qui, en fait, au moment de l'installer, se rend compte que il rentre pas. C'est vraiment, ça arrive très souvent. Ou l'armoire qui est plus haute que le plafond.
Ah oui, ça paraît bête, mais c'est comme ça. Hein.
Oui, parce que le coup de cœur vient souvent avant la dimension du meuble ou le meuble en lui-même. On dit, oh, il est beau, il est super ce meuble télé, mais on se rend compte que la télé rentrera jamais dans le trou.
Eh oui. Il y a aussi, je crois, le problème du passage, parce que dans les couloirs qui sont des fois très étroits ou les portes, ça arrive ça aussi, non?
Complètement. Oui, c'est.
Ah, ça vous fait rire. Hein.
Ah non, parce que j'ai tellement de situations, mais tellement de gens. Je vous raconte une histoire quand même.
Allez-y.
Je rentrais de vacances et puis c'est moi qui étais en relais sur le téléphone pour la plateforme et quelqu'un m'appelle et me dit. Est-ce que vous pouvez venir monter un meuble? Alors j'ai dit, il faut voir, on va voir, donc, ouais. Je parle avec lui. Et puis il me dit, non, est-ce que vous pouvez venir de suite?
Ah,
alors, ouais. Je fais, mais pourquoi? Et il me fait, ah, j'ai un problème. Je fais, mais on ne peut pas maintenant, mais dites-moi, c'est quoi? Il fait, je tiens la planche. Et il avait le téléphone, il me dit, je tiens la planche, et si je lâche, tout tombe.
Ah oui, évidemment.
Ah oui, il était vraiment au bout du rouleau, le monsieur.
Carrément. Il avait mal calculé son coût de son meuble pour la pièce. Donc, il pouvait pas le monter à plat. Il avait dû le monter debout et puis il devait le tenir. Du coup, moi j'étais en voiture. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais on a fait un FaceTime vidéo avec son épouse. On a réussi à le remettre droit, mais c'était d'un comique.
Ah ouais, ouais.
Mais alors, c'est fréquent.
Il y a la question de la taille. Alors moi, une fois, j'ai eu un livreur qui arrivait pas à me livrer le carton en question, mais simplement, il suffit de penser d'enlever le carton et de démonter et de sortir les éléments.
Bon,
hein. Oui. Ça peut paraître idiot. Il y a aussi, il faut tenir compte, je crois, du poids. Hein. C'est que parfois, le carton est insoulevable.
Complètement. Vous en avez un comme ça, c'est un des meubles de chez, je ne vais pas citer la marque, mais il est énorme et bien souvent, les personnes ne peuvent pas le dépasser.
On va venir maintenant au B.A.B.A. Comment on contrôle les pièces? Comment on coche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est dans l'ordre des choses, le carton est là, je l'ai ouvert, qu'est-ce que je fais?
Alors, je vais vous donner une série d'étapes assez intéressantes. La première, il faut vérifier l'intégrité du carton.
L'intégrité du carton, voir si le carton n'est pas crevé.
Voilà, cassé, déchiré, s'il n'a pas été cogné. Ça, c'est la première chose.
Ah, bon, on retourne voilà. Si c'est comme ça.
On n'ouvre pas et on appelle le fabricant en disant qu'on retourne.
Ça arrive souvent, ça, Frédéric?
Ah ouais, mais avec les livreurs. Parce qu'en fait, les livreurs, souvent, ne sont pas des compagnies, ne sont pas des sociétés, des fabricants. Donc, eux, ils livrent, ils sont payés au nombre de livraisons, donc ils y vont. S'il y a des escaliers, souvent, ça ne rentre pas dans les ascenseurs, donc ils cognent. Et ça, c'est la première chose.
Deuxième chose.
Vérifier l'intégrité du carton. Après, ensuite, essayer de trouver vite fait le carton et compter aussi le nombre de cartons.
C'est important, oui.
Voilà, s'il doit y en avoir 10, faites en sorte qu'il y ait 10 cartons. S'il y en a 9, même abandonner ou appeler la société pour savoir lequel il manque. Parce que vous allez avoir un problème. Donc, évitez. Ensuite, après, c'est trouver le carton le plus vite possible, celui qui a la notice et toute la visserie.
Oui.
Et avec ça, vous allez pouvoir commencer à faire quelque chose. Mais il faut déjà trouver cette notice.
Il faut un pointage très minutieux parce que des fois, il y a 100 vis dans un... si on prend un dressing, j'imagine qu'il y a un nombre de vis absolument considérable, non?
Complètement. Il y en a, oui, surtout le dressing, peut-être le dressing et l'armoire, c'est le meuble qui est le plus monté, peut-être.
Je pense. Ah oui. C'est la commode. Moi, je pensais que c'était la commode.
Alors la commode, oui, par nos soins, nous un peu moins, parce que beaucoup de gens aiment bien monter sa commode, même s'ils doivent passer 4 ou 5 heures sur une commode, on va passer qu'une heure, nous. Ben ils aiment bien, mais on en monte aussi. Hein, dans le lot, c'est on monte
des commodes. Après, il y a la visserie, il y a toute l'accessoirie, mais il y a les éléments eux-mêmes. Et là, le repérage, il est souvent très difficile. Alors moi, je sais pas si c'est la bonne méthode. Moi, j'utilise des post-it. Hein, c'est-à-dire, je mets un post-it sur ça.
Sur chaque panneau?
Ouais, ça c'est la joue droite, ça c'est la joue gauche, ça c'est le fond. Est-ce que c'est la méthode?
Ça fait rigoler Frédéric, alors, en tout cas.
Hein. Oui, non, parce que c'est souvent les, petite histoire. Sur le montage, souvent avec les meubles et bien repérer ses plans, je vais dire après quoi faire, mais c'est, souvent on monte un meuble et c'est, l'erreur vient souvent d'une planche qui a été soit inversée.
Eh oui.
Soit c'était pas la bonne planche qui allait au bon endroit, puis on a commencé à monter tout le meuble. Et je vais juste vous raconter mon premier meuble que moi j'ai monté. J'ai monté une armoire il y a 4 ans de ça, pour un client. J'ai démarré vers 17h. Et puis, j'étais content, je montais cette armoire, c'était super. Ouais. 17h, vers 21h. Donc je sais pas si vous voyez, 21h, je vais terminer. Je vais pour mettre le tiroir en bas de l'armoire et je me rends compte qu'il rentre pas.
Bah oui.
Et j'avais fini, j'avais donc passé presque 4 heures sur mon armoire, qui normalement mettrait 2 heures. Et je vais pour mettre le tiroir, et en fait, là, je réalise que la planche du bas n'est pas la bonne.
Ouais, ouais.
Et en retirant le tiroir, je réalise qu'en fait, c'était la première planche que j'avais mis lors du montage de l'armoire.
Vous savez,
et là, un grand moment de solitude quand même.
Mais
on n'a pas envie, qu'il y ait quelqu'un autour.
Alors, mon histoire des post-it, est-ce que c'est bon?
Alors, il y a une chose à faire. C'est comme ça que nous, on opère. C'est comme ça que je briefe les monteurs quand je les au début. La première chose, c'est qu'il y a certains fabricants, les planches sont numérotées. Donc, bien respecter ces lettres ou les numéros. Mais ils sont peu. Un exemple, pour ne pas le citer, IKEA ne numérote pas.
Oui.
Alors, ce qu'il faut faire, en fait, c'est utiliser l'espace de la pièce. Demander à ce qu'il n'y ait personne, ni le
répartir
chien,
les
ni
panneaux
les
au sol, quoi, en fin de compte.
Voilà, contre le mur.
Ou contre le mur.
Et vous les mettez bien pour que vous puissiez les voir. Et une fois que vous ouvrez votre plan, mode d'emploi, même si vous allez perdre 5-10 minutes, et c'est souvent ce que je conseille, parce que c'est... on va perdre du temps là, mais vous allez en gagner, vous allez peut-être gagner 2, 3 heures, 4 heures sur votre montage.
Alors,
de repérer les planches et se dire, tiens, celle-ci, elle a 3 trous, celle-ci, elle en a 2, celle-ci, elle est grande, elle est petite. Vous mettez tout autour de vous et là, vous allez voir, le meuble va se construire, en fait.
Vous savez que les anciens qui savaient quand même pas mal faire de choses, quand vous regardez une armoire normande, à l'intérieur, il y a des signes de calpinage, comme on dit, qui sont des signes parfois un peu cabalistiques, mais c'est comme ça qu'ils s'y retrouvaient, c'est comme ça qu'on remonte une armoire normande sans trop de difficultés, parce qu'il y a ces signes. Alors moi, je tiens quand même à ma petite astuce des post-it, là.
C'est bien.
Alors nous, on fait ça avec, vous savez, le scotch des peintres blancs pour le démontage. Quand on démonte une armoire et qu'on la remonte quelque part, on met du scotch, si on numérote la 1, 2, 3, en fonction du démontage. Alors, c'est pas con, le post-it. Réellement,
merci.
C'est... Mais il faut surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui... ou que le post-it tombe.
Ah oui, évidemment.
Ça peut être bien.
Le ruban de masquage en écrivant dessus, c'est une très bonne idée. Ou du scotch dit invisible, là, ça c'est pareil.
Oui, voilà. Mais c'est important de repérer ces planches et de les mettre. Et surtout, de nettoyer l'espace où vous êtes. Parce que souvent, on essaie, et je vois souvent... Vous savez quoi? C'est plus souvent des femmes qui montent les meubles que les hommes.
Oui.
C'est énorme.
C'est vrai.
Et pourquoi ça?
Plus minutieuse.
Plus minutieuse, plus organisée.
Bien sûr.
Oui, et voilà. Une logique aussi, peut-être.
Oui, et je vais souvent à Los Angeles parce que j'ai ma fille qui est là-bas.
Ouais.
Et vous savez, c'est majeur là-bas. C'est des femmes qui montent le meuble. Et en France aussi, il y en a beaucoup. Elles sont très carrées.
Elles sont très carrées. Ce que je dirais aussi, c'est évaluer le temps que ça va prendre. Parce que on sous-estime, je sais pas ce que vous en direz, mais on sous-estime généralement et on se retrouve dans un bordel total pendant une semaine, alors que normalement on avait prévu de faire ça dans le samedi après-midi, quoi.
Oui. Vous savez, le plus grand nombre d'appels qu'on a, ça commence le dimanche soir et le lundi.
Ouais.
Parce qu'en fait, on a remarqué que les gens sont dans l'enthousiasme le dimanche matin, vont acheter leur meuble, le récupèrent dans leur voiture, le montent, le mari se dit « chérie, tu vas voir,
ça va être génial.
Monter ton dressing de rêve, tu l'auras ce soir,
et ce soir, ça, c'est pas bon.
Voilà. » Et donc, vers 16h, ils appellent l'avocat pour le divorce, et puis là, ils commencent à parler, dire « écoute, peut-être qu'on peut appeler quelqu'un. Non, chérie, je veux pas. »
Frédéric,
il est au fil.
Frédéric, on a Philippe au 32-16 qui voulait témoigner, qui, lui... adore monter les meubles IKEA, visiblement. Bonjour Philippe.
Non, c'est, bonjour, bonjour.
Bonjour Philippe.
Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous les trois. Voilà, non, je suis un petit peu étonné. Je suis un petit peu étonné parce que les notices sont quand même très bien faites. Moi, je suis assez épaté quand j'achète un meuble. Bon, on va pas citer les marques, mais enfin, vous vous doutez.
Ouais.
Je trouve quand même que c'est numéroté. Il y a au début les différentes pièces. On peut regarder. Effectivement, ce que vous avez dit est très important. Prenez votre temps au début.
Voilà, c'est ça.
Étalez les pièces.
Et ouais,
et... Effectivement, une planche à deux trous, une à trois trous, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais si on prend son temps, je vous assure qu'un enfant peut monter. Et ça peut être pédagogique en ce moment. Apprendre à un enfant à faire attention et à être méticuleux sur les choses. La différence entre une vis un tel, être précis, être apprendre, c'est pédagogique, on a le temps en ce moment.
Il faut faire des leçons des montages de meubles, en fait, c'est ça. Hein.
Voilà. Savoir prendre son temps. C'est vrai qu'il y a des handicapés du tournevis, excusez-moi, j'ai pris cette expression tout à l'heure. Hein. Il y a des personnes qui prennent le tournevis par le métal. Hein. J'en connais réellement.
Mais, bon, vous savez, c'est aussi une tradition française, une très mauvaise tradition, que d'attaquer les choses sans regarder les notices. D'une façon générale.
D'aller trop vite en général.
Trop vite. C'est la préparation qui compte. Hein, qui
vous savez, quand vous jouez une... Quand on veut jouer une sonate de Beethoven, il faut la travailler à 60 la noire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller lentement au début.
Oui,
et
60
après, on arrive
la noire,
à jouer
c'est...
cette sonate de Beethoven.
Oui, oui ben, j'aimerais bien. J'aimerais
Philippe,
bien.
Vous êtes musicien, non?
Vous avez compris.
Eh ben, oui, voilà, mais je préfère les concertos, hein, si vous... Ouais.
Mais concertos ou sonates chez Beethoven, voilà. C'est génial.
Absolument.
Apprenez, il y a le confinement en ce moment, apprenez à ouvrir vos oreilles pour d'autres choses. Vous voyez à quoi ça parle, les meubles en kit? Ça peut parler pour d'autres choses.
Merci
si
Philippe, hein, merci en tout cas pour ce témoignage, c'est sympa. Bah voilà, il y en a un qui est content de monter des meubles.
Frédéric Pressac, donc moi j'aimerais quelques conseils si on est tout seul. Parce que c'était d'ailleurs dans le lancement qu'on avait avec le petit texte un peu humoristique au départ. C'était si je suis tout seul, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on dit toujours il faut être deux, mais il y a des gens qui sont pas forcément deux. Et le coloc, il est pas là forcément. Est-ce que vous pouvez nous donner des astuces là?
Alors, on monte souvent tout seul, hein, nous-mêmes. Hein. C'est souvent ce qu'on fait. Même des meubles, il y a écrit.
Oui, vous êtes
personnes.
Un pro, vous.
Oui, mais on s'est habitué. Alors la première chose déjà, c'est bien s'organiser et avoir toutes les pièces à proximité de soi.
C'est
important. Ne pas monter une planche et avoir la vis qu'il faut à 3 mètres. Et
d'accord.
Se dire, si je lâche ma planche, avoir à proximité.
Donc, avoir tout à proximité.
Même les outils, tout, vraiment
d'accord.
Tout. Et ensuite, après, utiliser l'espace.
Oui.
Bien souvent, les meubles se montent à plat.
Oui.
Au sol. Certains, pour des marques qui n'ont pas compris que le mode d'emploi était important d'être fait consciencieusement, le font monter debout. Quand il est à monter debout, dans ce cas-là, le meuble, utilisez les murs. Et de coller contre le mur.
Ah, coller contre le mur. Eh oui,
voilà.
C'est mieux.
Et une autre chose, j'utilise des pinces, moi, qui me permettent de tenir...
Il y a des pinces extrêmement puissantes. Hein.
Ah oui,
voilà.
D'accord.
Eh
oui,
et
qui vous permettent...
coûte rien, ça coûte 5 euros, 3 euros, même des pinces en plastique. Et vous pouvez utiliser ces pinces pour tenir deux planches, pour tenir quelque chose. Et puis, utilisez d'autres meubles. Prenez la commode qui est à côté.
Ah bon, se caler. Ah bah oui, on peut faire comme ça, on fait un angle.
Et oui. Voilà, utilisez autre chose, mais surtout le monter à plat. Et je voulais dire, revenir sur ce que disait le monsieur avant, il y a un gros problème avec les notices. Le gros problème avec les notices, c'est pas la notice, c'est la personne qui lit la notice. En France, on a un problème que moi j'appelle le Nobel.
Ouais.
Celui qui sait mieux que les autres et qui en fait considère que les premières pages ou certaines pages
ça
de notice ne sont pas nécessaires.
Ouais.
Donc, il les enlève carrément. Il y en a même qui les jette. Ou alors celui qui dit non, mais attends, je vais directement aller là, mais ça, je sais tout ça. Non, s'il y a une notice.
Voilà. Oui, il faut la suivre. Frédéric, merci beaucoup.
Oui. Merci.
Responsable de la plateforme montagedemeubles.com.fr.
FR.
RMC.
Jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Voilà, 7h46, nous sommes de retour le week-end des experts, la maison. Et je vous rappelle qu'à partir de 8h, ce sera Christian Riquia qui sera là, notre médecin. On reviendra évidemment sur le Covid, on fera un point d'étape hein, sur cette épidémie. avec Christian Ekia. On évoquera aussi le microbiote intestinal qui est véritablement là pour booster notre immunité. Et puis bien sûr, toutes vos questions, forme santé à Christian Ekia tout à l'heure à partir de 8h. Mais dans l'immédiat avec Christian PC, c'est toujours la maison.
Et oui.
Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler à tout moment. Et c'est Michel qui nous attend. Bonjour Michel.
Bonjour
Michel.
J'espère que vous allez bien.
Oh ben ça va.
Oui, parfaitement, tout va bien. Et vous-même?
Pas top, mais bon, puisque je ne suis pas bricoleur, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé.
Allez-y.
J'ai mis donc des panneaux solaires et j'ai un chauffe-eau électrique. Et à la suite de ça, je pense qu'on a des tuiles. J'ai des tuiles qui se sont cassées et je vois à travers de mon placo des infiltrations. Alors il faut savoir que c'est une maison qui est de 85 et que les tuiles, je ne peux plus en retrouver les mêmes. Alors la question qui était, est-ce que ça se répare ou est-ce qu'il faut changer toute la toiture?
Alors vous me dites que c'est 85, donc 85, 95, 2005, 2015, ça veut dire que c'est 35 ans en gros là, votre toiture, hein, si je comprends
exact.
Bien. Donc
exact.
Alors, c'est peu probable que, enfin, il est rare que au-delà de 30 ans, on ne retrouve pas les tuiles. Mais vous avez un marquage hein, derrière les tuiles alors, qui vous permet à la fois de voir la marque et de voir le type normalement.
Exact. Alors ça, j'ai un technicien qui est venu pour nettoyer des tuiles, puisque apparemment ouais. Les tuiles se nettoient pour garder, pour pas garder les aspérités. Pour
non,
pas
ça. Alors de... c'est de là que vient votre fuite. Hein. C'est là. Vous n'avez pas à chercher. Hein. C'est le nettoyage de votre toiture qui n'était certainement pas nécessaire et qui
a désolidarisé
les tuiles. Hein. Ouais. Donc moi, je pense que c'est la
première. Quand décalant les tuiles, l'eau pénètre. Voilà. C'est ça.
Ouais. Moi, je suis l'ennemi du démoussage des toitures. Hein.
Parce que ce qu'il fallait pas faire.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui
ça s'appelle les arnaqueurs.
Ben voilà, pour moi, très bien.
Voilà. C'est-à-dire que là, comment ça s'est passé? On est venu vous voir, vous solliciter pour nettoyer votre toiture.
Eh oui.
Exact, c'est juste dans une maison individuelle, donc dans un lotissement, et les gens, plusieurs personnes sont passées, une fois, deux fois, d'autres entreprises, plusieurs entreprises qui passent.
Mais c'est tout le temps, moi j'en ai une aussi, une maison. C'est pas une fois par mois qu'il y a quelqu'un qui passe en disant, oh là là, vous avez vu la tuile, vous avez vu les mousses qui sont sur votre toiture, ça va devenir poreuse, ça va les décaler, etc. C'est du pipeau, donc faut pas y toucher, sauf s'il y a 3 cm de mousse avec des fleurs dessus. Mais sinon, il faut vivre avec la patine de ces tuiles. Hein. Je veux dire, je vais pas dire que c'est pour sa compagne. On lui fait parfaire un lifting tous les 10 ans parce qu'on la voudrait plus jeune. Bah, c'est pareil pour votre maison. Hein.
Donc, c'est les mêmes d'ailleurs qui font pour les façades qui disent.
Mais voilà, mais c'est les mêmes. Voilà. C'est les mêmes et qui ensuite vous décalent les choses. Alors attendez, je vais quand même répondre à votre question. Pour le cas où vous auriez des tuiles qui seraient abîmées, sachez quand même que normalement les tuiles sont garanties pratiquement par tous les fabricants 30 ans. Donc vous voyez, vous êtes dans les eaux, si j'ose dire. Alors après, quant à savoir effectivement s'il y a des tuiles de remplacement, je dis oui. C'est-à-dire que tous les grands fabricants, je pense par exemple à Imerys qui est devenu Edilience aujourd'hui, je pense à Terreal qui sont les deux grands meuniers, ils ont presque toujours une solution de remplacement, parfois avec quelques modifications de la tuile, de son profil, j'entends du côté intérieur, du côté comble, qui permet l'emboîtement et donc ça existe. Alors, allez sur les sites de ces tuiliers et vous verrez qu'il y a toujours, je pense par exemple, je citais Edilience là, qui est le nouveau nom de Dimeris, ils ont même des tableaux de concordance. Ils ont même une possibilité où vous dites voilà, c'est telle tuile. Alors vous en connaissez le nom, c'est parfait. Sinon, vous la décrivez et ils vous font même des propositions de remplacement des tuiles. Donc, il est rare qu'on ait l'obligation de refaire complètement une toiture parce que vous avez quelques tuiles abîmées.
D'accord.
Mais est-ce que vous avez fait venir un couvreur?
En fait, je suis allé donc avec une de mes tuiles qui ont été fabriquées. Je suis dans les Bouches-du-Rhône, donc par cette entreprise-là, et qui m'a dit qu'effectivement, ils ne faisaient plus ces tuiles-là. Donc en fait, c'est à partir de là que j'ai été un peu inquiet.
Eh bien, allez sur les sites des grands tuiliers. Je citais Imerys, c'est-à-dire Edilience. Je citais Terreal, et vous allez voir qu'il y a sûrement des solutions pour remplacer vos tuiles. mais ça a été une tuile pour vous que de faire nettoyer votre...
Il a fallu celle-là, hein, Christian. Elle vous dérangeait depuis tout à l'heure, je le sentais bien. Merci Michel. On enchaîne avec Audric au 32-16. Bonjour Audric.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour
Audric. On vous écoute.
Bonjour. Oui, je vous appelle parce que j'ai un petit souci. En fait, quand il y a de fortes pluies, depuis ça fait 2-3 fois que ça m'arrive, il y a une infiltration à travers un mur en pierre qui s'est créé. Et ça coule vraiment comme un robinet, comme une petite source, si vous voulez.
Oui.
Et alors, je voulais savoir ce qu'il y avait comme technique pour boucher ce trou. J'avais pensé à injecter un mousse polyuréthane dedans et un enduit hydrofuge, mais je ne sais pas si c'est possible.
Alors, attendez, votre façade, elle est en quoi? Elle est en pierre apparente?
Et non, en fait, c'était derrière un placo, donc j'ai vu d'où l'eau sortait, en fait, et donc j'ai rouvert le placo.
Non, mais vous ne me répondez pas, là. Votre façade à l'extérieur, elle est en quoi?
Oui, mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a un bâtiment même, donc c'est une infiltration, je pense qu'il vient du sol, le plus.
Non, mais elle est en quoi? C'est une façade?
En pierre apparente.
En pierre apparente, oui. Alors, ça, c'est la problématique. Oui, mais si vous n'avez... Ah, vous n'avez pas accès à l'extérieur, pourquoi?
Non. Parce que c'est des cours intérieurs, en fait, c'est une autre maison et c'est un bâtiment qui est collé contre cette façade.
Ah, bah alors là, ce que vous avez, c'est que quelque part, au niveau de la jonction des deux bâtiments, vous avez certainement une gouttière qui se déverse, un chéneau qui se déverse ou qui est percé, et donc la flotte passe entre les deux, et donc vous pourrez faire ce que vous voulez, tant que vous n'aurez pas résolu le problème de l'origine, c'est-à-dire de la source, en l'occurrence c'est de l'eau, ça tombe bien, mais de l'origine de l'eau, vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous allez reboucher un endroit, ça reviendra à un autre. Donc il faut absolument que vous ayez accès avec, vous alliez voir votre voisin, que vous allez voir le syndic si c'est un immeuble collectif, et que vous disiez, attention, parce que ce que vous me décrivez là, c'est pas de l'humidité, c'est une véritable cascade. Donc si c'est une véritable cascade, c'est évident que c'est donc un déversement d'eau, c'est-à-dire l'évacuation de l'eau ne se fait pas correctement. Et là, si c'est votre voisin ça vient de chez votre voisin, il est responsable. Là, on n'est pas responsable, si vous voulez, des eaux des autres, des eaux du fond supérieur, comme on dit, lorsque les évacuations se font normalement. Quand on est dans une situation comme la vôtre, eh bien, ça veut dire que votre voisin vous déverse de l'eau. Et donc, il faut aller voir votre voisin, il faut trouver la solution, trouver l'origine. Je ne vous dirai pas qu'il faut boucher avec de la mousse de polyuréthane ou autre, ça va revenir ailleurs. Donc, c'est vraiment la solution.